Une vie, une œuvre, c'est samedi, 16h, c'est tout de suite. Akira Kurosawa, L'autre samouraï, 1910-1998. Aujourd'hui, Une vie, une œuvre, c'est l'histoire de celui qui prenait des cours de kendo. De celui qui était à la fois monteur, réalisateur, producteur et scénariste. De celui qui pratiquait la calligraphie et adorait Simenon et John Ford au point d'arborer le même bob que lui sur ses tournages. De celui dont le père descendait d'une lignée de samouraïs et dont le frère était commentateur de films muets. Et enfin, surtout, de celui qui a réalisé plus de 30 films primés dans le monde entier. Akira Kurosawa est un cinéaste japonais, influencé autant par l'Asie que par la culture occidentale et ses films, qu'il joue avec les figures de guerriers japonais médiévales ou avec des figures plus contemporaines en but à la société, parlent au plus grand nombre. Ce sont des films hantés par la relation du maître et de l'élève, par la figure du disciple qui prend son envol et à son tour montre la voie. Comme le faisaient les samouraïs. Dans ces films, Kurosawa rend hommage à leur vaillance et à leur intégrité. Son cinéma est politique et héroïque. C'est un cinéma d'après-guerre qui tourne autour de personnages qui se libèrent et s'individualisent alors que Kurosawa n'a jamais fonctionné qu'en troupe entourée de sa famille de cinéma, pour réaliser, entre autres, la légende du grand judo, Rashomon, les sept samouraïs, Kagemusha, Ran, Uderzu, Uzala. Akira Kurosawa, L'autre samouraï, un documentaire d'Émilie Chaudet et Ghislaine David.
Yoi Aïe.
Alors voilà, quand on écoute cette musique de Masaru Sato pour Yojimbo, le garde du corps, il y a quand même tout de suite quelque chose qui est frappant, c'est...
Nicolas Saad.
La dissonance entre la grande forme, je dirais, qui est l'arrivée des cuivres, qui sont très 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 élégiaques et puissants, et qui ramènent vraiment aux sept samouraïs, à cette espèce de chanson comme ça, de gestes profonds du Japon... du Japon, je dirais, mythique, mythologique, et de l'autre, tous ces éléments musicaux complètement dissonants, complètement à contre-pied de ce thème au cuivre, qui font plus penser à des sonorités occidentales venues du mambo, de la musique rythmique populaire occidentale en général. C'est composé donc, j'imagine, en 61. Donc c'est 2 ans avant Pour une poignée de dollars. Et donc la musique, finalement, elle invente le son de Morricone. Alors, comme on sait que Pour une poignée de dollars est un remake de Yojimbo, on peut être sûr et certain que Ennio Morricone et Sergio Leone ont écouté la musique de Masaru Sato ensemble et qu'ils se sont dit comment on peut trouver un équivalent latin, italien, occidental à ce que font Kurosawa et Masaru Sato. Dans la musique de Masaru Sato, il y a quelque chose d'extrêmement excitant. C'est-à-dire que quand le film commence et qu'on entend cette musique et qu'on se dit on va voir un film d'époque, et la musique qui illustre ça, elle n'a rien à voir avec un film d'époque, on sait très bien qu'on va rentrer dans quelque chose qui est de l'ordre de l'inédit.
Akira Kurosawa, 1910-1998, L'autre samouraï. Un documentaire d'Émilie Chaudet, réalisé par Ghislaine David.
Oui, alors là, Forteresse cachée, c'est un grand film de divertissement qui revient sur le succès des sept samouraïs. Alors vous allez voir là une scène tout à fait extraordinaire parce qu'elle parle d'elle-même.
Fabrice Arduini.
Alors l'intrigue de ce film, c'est tout simplement, c'est un fief, un clan qui a perdu une bataille et qui va se réfugier dans un clan allié, mais pour ce faire, doit traverser le clan ennemi. Et ce clan, donc, qui a perdu une guerre, en fait, il lui reste un grand général, il lui reste la princesse, qui est le l'incarnation de la légitimité de ce clan, de ce pays. L'or est le nerf de la guerre, donc permet à ce clan de survivre. Et le général, donc, est l'incarnation de la force, du pouvoir, de la volonté. Et donc, c'est grâce à cette main ouvrière, à cette cheville ouvrière, que le clan va pouvoir subsister. Mais la grande aventure, c'est qu'il faut traverser le clan ennemi pour pouvoir atteindre le clan allié.
Et protéger la princesse.
Il faut absolument protéger la princesse. Et vous allez voir là ce qu'aime faire Kurosawa, beaucoup dans l'expression d'image, c'est très intéressant. Il va rendre hommage au cinéma américain et à ses grands espaces et à sa panoramique. Tu peux envoyer, s'il te plaît ? Donc il joue beaucoup sur la forme comme ça, hein. Vous voyez, la porte frontière, le poste frontière est au milieu de l'image, sous la forme d'une barrière, d'un cadre, d'un grand cadre, d'une barrière. Et dès que les personnages entrent dans le cadre, ils se retrouvent dans un grand plan panoramique. Là, on est carrément dans le théâtre. Voilà, donc c'est le matin, donc le général, la princesse et sa suivante, en fait, sont ramenés dans le fief, dans la capitale du clan ennemi. On ramène l'or aussi, donc tout rentre dans l'ordre. Mais là, son ennemi, à la fois ami, va l'aider à fuir. Donc il va trahir son propre clan et repartir avec ses amis. Et vous allez voir deux choses, c'est-à-dire une chose au niveau de la manière dont Kurosawa va te filmer, c'est-à-dire de toujours élargir au maximum le plan. Il veut donner une dynamique à l'image, un peu à l'américaine. Donc il va s'amuser à mettre un cadre au milieu de l'image et montrer des gens passer sous le cadre pour aller se diriger vers un plan panoramique. Donc il ouvre la voie à l'action. Et en même temps, il vous montre à travers le personnage Tadokolo, vous allez voir son action tout à l'heure, comment il nettoie l'image, comment il nettoie les impuretés, tout ce qui gêne la dynamique de l'image, tout ce qui rend pesant, il essaie de l'éliminer, de le retirer. Et vous allez voir une très belle image où l'on voit Tadokolo, donc l'ami et ennemi à la fois de Toshiro Mifune, qui abat comme des dominos les lances qui sont placées sur des étagères. Et donc il va rendre l'image tout à fait pure d'un seul coup, sans gêne, sans obstacle. C'est tout à fait caractéristique de la volonté de Kurosawa de faire de l'image dynamique légère, hein, qui ressemble un peu à une diligence qui parcourt la Monument Valley à 100 à l'heure. Vous voyez, il lui rend d'autant plus hommage au cinéma américain, notamment au cinéma fordien, qu'il sait que géographiquement au Japon, il n'est pas possible de faire des scènes aussi dynamiques avec des chevaux qui courent des minutes entières en plan séquence, à bride rabattue. C'est pas possible géographiquement de le faire au Japon. Et c'est parce qu'il le sait que Kurosawa essaie de rendre hommage ou parfois de tricher avec le montage pour donner cette impression de dynamisme à la Monument Valley, ce qui n'est pas possible à faire au Japon. Et vous constaterez que dans les films de sabre, notamment les films d'action, il y a très peu de scènes en plan séquence et en travelling très dynamiques. Vous voyez donc là, les chevaux passent sous le cadre et vous allez les revoir plus tard courir dans un très très long, grand panoramique grandiose. Les personnages comme ça sont toujours soumis à des grands destins, enfin des destins qui vont changer leur vie. Dans le cinéma japonais, c'est pas courant d'avoir des films aussi haletants, comme ça, aussi épiques. C'est quand même rare pour l'époque et encore aujourd'hui.
On a en France une totale méconnaissance du cinéma de Kurosawa, qui est dû à quelque chose qui est finalement un peu bête, un peu idiot, mais qui est explicable en même temps, c'est qu'on assimile Kurosawa à un cinéaste de films historiques. Donc on l'associe au Château de l'Araignée, au Sept Samouraïs, à Ran, à Kagemusha, qui sont ses deux films les plus récents. Et on oublie que c'est un cinéaste qui a beaucoup, beaucoup parlé du contemporain. Mais quand on commence à regarder son œuvre, Le Chien enragé, L'Angivre, Vivre dans la peur,
Les
salauds d'homme tempête, Entre le ciel et l'enfer, Dodescaden, nombre de films de Kurosawa qui se situent en fait dans l'époque contemporaine, dans son époque, qui est aussi le fruit de toute son expérience, de tout son rapport à la mort, à la peur, à l'existence, quoi, et aussi au drame qu'il a traversé personnellement. Entre le ciel et l'enfer, c'est l'adaptation d'un roman d'Ed McBain, qui appartient en fait à une série de romans d'Edmund Ben qui sont toujours consacrés au même commissariat de police. Et Kurosawa a presque changé le point de vue du roman en partant des victimes plus que des policiers. Et le film raconte comment un grand industriel, à la veille d'une décision absolument majeure dans sa carrière, doit faire face à un dilemme beaucoup plus important. Le fils de son chauffeur est kidnappé par des voyous qui le confondent avec son propre fils. Et donc il est face à un dilemme, doit-il payer la rançon ou pas ? Et à partir de ce dilemme, Kurosawa a construit un film qui est autant un film policier qu'une méditation sur la lutte des classes, quasiment. C'est un film ultra politique, et c'est un film politique mais pas engagé. C'est ça que j'aime aussi chez Kurosawa, c'est qu'il fait la distinction entre ce cinéma engagé que je trouve un peu naïf, un petit peu un cinéma tract. Et en même temps, c'est un cinéaste qui a une conscience du politique, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire le politique comme vide de la cité. Et dans ce film, il met face à face deux mondes, c'est-à-dire le monde des sans-abri, des drogués, des bas-fonds, face à celui des nantis, des riches, mais sans juger l'un contre l'autre. Simplement, il fait une espèce d'état des lieux d'une société japonaise qui est complètement fracturée depuis la fin de la guerre, parce qu'elle a plus d'idéal d'empire, parce qu'elle a plus d'idéal de conquête. Et il raconte ça avec énormément de force. Deuxième chose qui, pour moi, compte énormément dans le cinéma de Kurosawa, c'est l'idée que l'action mène à l'émotion. Et inversement. C'est-à-dire que, par exemple, dans Entre le ciel et l'enfer, il y a une scène qui est, pour moi, un des plus grands moments de l'histoire du cinéma d'action. Cette scène où on doit remettre la rançon au kidnappeur, qui est une scène qui a influencé autant De Palma que John Woo, que d'autres cinéastes, et le coda de la scène, qui devrait être une espèce de moment comme ça, d'angoisse, de suspense absolu à la Hitchcock, le coda de la scène, c'est une envie de pleurer soudainement, de se lâcher totalement. La scène est construite comme un film d'Hitchcock, elle se termine comme un film de Chaplin. Tout ce que je sais de Kurosawa, c'est ce que j'ai pu lire dans sa fausse autobiographie qui s'appelle Comme une autobiographie, qui est un livre qui a été publié par les Cahiers du cinéma il y a quelques années déjà, et qui s'arrête au moment où Kurosawa devient une star planétaire, c'est-à-dire au moment de Rashomon, même un peu avant. Mais ce que raconte Kurosawa dans ce livre est très troublant. Sa sensation de grandir dans un pays qui est dans une misère et une violence noire. Et le relais de ça, ses deux frères, dont il parle beaucoup, et qui sont morts tous les deux, dans des circonstances tragiques. Son père, un militaire, un descendant de samouraï, un type extrêmement rigoriste, et en même temps de très ouvert. Et là, pour moi, il y a une clé du cinéma de Kurosawa. C'est cette idée qu'il faut contrôler, maîtriser tous les éléments qu'on a à sa disposition quand on fait du cinéma, mais qu'en même temps, ils ne doivent pas nous priver d'un regard sur le monde qui soit le plus ouvert et le plus impur possible, et le plus ouvert à toutes les influences. On entend Miss Tinguette dans les premières minutes de vivre de Kurosawa. Il y a du mambo, il y a une composition classique. On se rend compte que il est très très ouvert à tout ce qui peut être nouveau et différent, parce qu'il sait qu'il pourra le contrôler et l'inscrire dans sa maîtrise et son regard.
On a des films noirs, on a des films d'épopée, On a des films de combat, on a des films qui sont pour moi des hallucinations, comme Dodescaden. C'est très très beau, mais c'est très onirique, c'est très expressif, très pictural aussi. On a des films qui sont un peu cinglants par une sorte de beauté un peu froide et picturale là aussi, comme Ran. Derrière toute cette diversité, je pense qu'il y a un être qui se cherche, qui est en formation et qui n'hésite pas à se remettre en cause aussi, qui a à se remettre en jeu.
On se trouve ici au musée Guimet, au troisième étage du musée Guimet à Paris. Et alors là, on se trouve devant une armure de guerrier de l'époque Edo, qui est une époque que Akira Kurosawa a beaucoup représentée dans ses films de samouraïs, notamment dans Sanjuro, dans Yojimbo, dans Les Sept Samouraïs. Qu'est-ce que vous voyez devant vous, Clélia Zernik ?
Alors la première chose qui apparaît pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste des armures de samouraïs, c'est la dimension de prestige, de grand apparat. Il est assis. Être assis en japonais, c'est très proche de méditer. C'est aussi une position de constance et de face à face avec le spectateur, ici en l'occurrence. Le masque, ce qui m'intéresse, c'est ses ouvertures. La bouche est ouverte et montre le vide, et les yeux sont aussi laissés vides. Tout est très solide, mais ça enceint, ça construit du vide, et c'est par le vide qu'il y a ce pouvoir qui se manifeste, cette impression de présence très forte. Au début de son autobiographie, il dit « Jamais j'aurais voulu parler de moi et de faire une autobiographie, ça ne me correspondait pas du tout. » Mais quand Jean Renoir m'a expliqué que ce qu'il avait fait dans son autobiographie, c'était parler des gens qu'il avait croisés et donc faire un portrait de lui en creux. L'armure de samouraï, c'est ça, c'est un portrait en creux. Il parle assez peu de lui, mais il parle d'un des maîtres de dessin qu'il évoque souvent, son frère aîné qui s'est suicidé avant 30 ans, qui lui a appris tout en cinéma. Le cinéaste Yamamoto, qu'il appelle Yama-san. Kurosawa dit qu'il a toujours été très intéressé par les êtres en formation, pour une raison simple, c'est que lui-même s'est toujours considéré en formation. Les peu de choses qui pointent de son caractère, c'est une forte émotivité. Il fait un portrait de son père assez intéressant. Il dit, voilà, mon père, en réalité, était extrêmement sentimental. Et je crois que c'est un dosage qui me semble très intéressant chez Kurosawa, c'est qu'il est à la fois énergique et plein de volonté, de combat aussi, de dimension de combattant, de résistance, mais aussi cet être extrêmement sentimental, on a dit humaniste. Et effectivement, il y a toujours dans ces films, au moment où on est attendri, être samouraï chez Kurosawa, c'est pas forcément avoir une armure ou avoir le statut de samouraï. Et tout l'enjeu précisément des sept samouraïs, c'est que être samouraï, c'est pas avoir le costume. Et Toshiro Mifune, qui n'est pas samouraï de naissance, tout au long du film, acquiert un statut de samouraï parce qu'il forme les paysans, parce qu'il les aide à se défendre, deviendra véritablement samouraï dans la mort. Il y a cette scène magnifique où on le voit allongé dans la boue et la pluie tombe sur lui et il est absolument nu. Et c'est par la nudité qu'il acquiert le statut de samouraï et pas du tout par l'armure qu'il a volée par une ruse qui est complètement illusoire.
C'est quelqu'un qui veut se battre, avec son cinéma, mais il veut se battre.
Michael Luken.
Kurosawa était partisan de la guerre qu'entreprenait son pays. Il dit que le cinéma doit servir la cause impériale. En même temps, c'est évident qu'il a été très souvent confronté à des phénomènes de censure parce que c'était trop cher, parce que c'est la guerre, donc on a des policiers, des militaires qui interviennent dans la réalisation des films, qui sont tatillons, qui sont bornés, qui ont leurs idées à eux, qu'ils veulent simplement exprimer leur pouvoir. Donc il a été comme ça en butte avec les militaires et les policiers pendant ces années-là. Mais pendant la guerre, il commence sa carrière, c'est un jeune homme, il a un peu plus de 30 ans, et on lui propose de faire son premier film en tant que réalisateur. Certes, c'est le réalisateur dans un système très contrôlé, mais on lui propose donc en 43 de faire son premier film. 43, on est quand même déjà tard dans le conflit. Les Japonais sont sur le reculoir. Il reste donc 2 ans avant la fin de la guerre du Pacifique. Et durant cette brève période de 2 ans, Kurosawa va se voir commander 4 films. Et notamment grâce à son premier film qu'on appelle en français La légende du grand judo. C'est assez exceptionnel de voir les responsables à la fois des sociétés de production, mais qui sont complètement sous le contrôle des autorités, les autorités militaires et policières de l'époque, passer, faire confiance à ce point à un jeune réalisateur. Et il écrit des scénarios qui sont publiés, des revues dans lesquelles sont publiés les scénarios, et donc il est repéré de cette manière-là. Donc on lui fait confiance, on lui dit « Allez, fais-nous ce film qui est une adaptation d'un roman sur la vie de ce fondateur, vie évidemment romancée, du fondateur du judo. » Donc il va donner la légende du grand judo, Sugata Sanchiro en japonais. Et ce film est un grand succès. C'est un succès populaire, c'est un succès critique, et c'est à la suite de ce film qu'on va lui passer d'autres commandes.
C'est la légende du grand judo, donc c'est le héros du film, Sanchiro, qui est un jeune garçon paysan qui vient à la rencontre d'un maître de jiu-jitsu. C'est de là que le judo est né.
Catherine Cadou.
Et c'est le personnage qui va créer la voie de la souplesse. Le jiu-jitsu, ça veut dire la technique de la souplesse. Et le judo, c'est la voie de la souplesse. La voie est une codification de techniques qui vous permettent, en respectant les différentes étapes du code, de vous former vous-même, de vous découvrir vous-même. La voie du thé, la voie de la souplesse, le kendo, la voie du sabre. Chacun choisit une voie, mais une voie qui est une façon de continuer son apprentissage. Et un apprentissage, qu'est-ce que c'est ? C'est de s'apprendre à vivre soi-même, quoi, tout simplement. Je trouve que le film lui-même, l'histoire de ce personnage est très symbolique. Lui, il entre dans la voie du cinéma et il nous montre quelqu'un qui entre dans le monde qui va aboutir à créer la voie.
Les 4 films qu'il réalise pendant la guerre sont donc La légende du grand judo 1 et 2, c'est-à-dire la suite qui va lui être commandée et qui va être tournée en 1945. Entre les deux, il réalise un film que l'on pourrait traduire par Le plus dignement. Je crois que c'est comme ça, ce titre qu'il va sortir très prochainement en français, pour la première fois. Et en 1945, il réalise un 4e film. Il faut imaginer, on est dans les derniers mois, dernières semaines du conflit. On est les bombardements massifs sur Tokyo, sur Osaka, Nagoya ont déjà commencé. Le Japon est déjà en ruine pour les grandes villes. Et il se lance dans un film qui va être tourné à cheval, et c'est tout à fait exceptionnel, entre la fin de la guerre et le début de l'occupation. Le titre en japonais reprend un proverbe qui correspond plus ou moins en français à « qui joue avec le feu ». Voilà. Moi, je propose même « qui marche sur la queue du tigre », sous-entendu, s'expose à de graves dangers. C'est un film que je trouve absolument passionnant, qui a été souvent négligé par la critique à cause de son histoire un peu troublée. Le fait qu'il ne soit sorti sur les écrans que très tard, bien après sa réalisation. C'est un film qui met en scène une pièce très célèbre de Kabuki, que tous les Japonais de l'époque, en tout cas pour ses grandes lignes, connaissent. C'est la fuite du grand guerrier Yoshitsune, un guerrier du 12e siècle, qui est en bisbille avec son demi-frère, qui est le nouveau shogun, le nouveau maître du pays. Et il doit fuir les sbires de son demi-frère. Et pour leur échapper, il se déguise avec ses compagnons en moine, puis choisit de se déguiser en porteur. C'est-à-dire, en porteur, c'est vraiment quelque chose de très très modeste comme condition. Jusqu'à ce qu'il soit arrêté par des gardes et interrogé. Mais juste au moment où ils vont passer la porte, il y a quand même un soupçon émis sur le petit porteur, là. Et donc, pour montrer qu'il ne s'agit que d'un porteur et que ça ne pourrait pas être un subterfuge, le colosse, Benkei, entreprend de frapper ce petit porteur. Il le frappe. Et le chef des gardes dit, bon, si ça avait été son maître, si ça avait été le grand Yoshitsune, il ne l'aurait jamais battu. Donc ça ne peut pas être le grand Yoshitsune, laissons-les passer. Et il passe la barrière et la pièce se finit peu après. Et toute cette histoire, Kurosawa la reprend dans son film, la met en scène avec des éléments un peu burlesques aussi. Et c'est quand même extrêmement troublant d'avoir choisi cette histoire à une époque qui est précisément celle de la défaite du Japon. Il y a quelque chose de très prémonitoire dans ce film. D'une certaine manière, c'est ce que va faire le gouvernement japonais avec l'empereur, qui va accepter la défaite avec l'empereur Hirohito, qui va accepter la défaite, et l'empereur lui-même va se mettre dans la peau de cet empereur citoyen, très content de collaborer avec les Américains. Évidemment, ce n'était pas le cas jusqu'alors. L'extrait que je mettrai en avant est peut-être un petit passage tout à la fin du film, après cette scène de la barrière que je présentais tout à l'heure. La petite troupe est sauvée, elle a passé la barrière et elle se retrouve, elle se repose, et là le fidèle serviteur, le fidèle Benkei, ce grand colosse, se met à pleurer et s'excuse auprès de son maître d'avoir dû le frapper pour le sauver. Et juste après, il va se mettre à boire. La morale derrière, c'est que, alors certes on l'a sauvé, mais on a perdu quelque chose en même temps. Et c'est cette douleur qu'il essaye d'oublier dans l'alcool. C'est, je crois, une ligne chez lui. Cette idée que, en définitive, quel que soit le niveau sur lequel on se place, la victoire est toujours accompagnée d'une défaite.
Alors le samouraï de Kurosawa, il y a les deux types de samouraïs. Il y a le authentique, c'est-à-dire le samouraï qu'il aime, c'est celui qui est libre, qui choisit son maître. Et la vertu cardinale du samouraï, c'est plutôt la loyauté, plutôt que la liberté. C'est la loyauté pour un maître, et quand le maître vous déçoit, on peut toujours le quitter. Et sinon, on donne sa vie pour ce maître. Et l'autre, c'est l'image de l'homme libre, n'ayant plus de maître. La seule loyauté qu'ils ont, c'est vis-à-vis d'eux-mêmes. Et il doit être fidèle à l'image qu'il s'est créée d'un homme droit et loyal, qui est un personnage assez exceptionnel, créé de toutes pièces par Kurosawa. Kurosawa disait que l'intérêt de faire des films, c'est de créer des personnages qu'on a envie de fréquenter, dont on a envie de devenir ami, des personnages qui peuvent vous apprendre quelque chose. C'est vrai qu'il a fait des personnages. Alors là, quelquefois c'était un samouraï, quelquefois c'était d'autres personnes, les médecins qui continuent à être loyaux au serment d'Hippocrate quoi qu'il arrive, le fonctionnaire tout d'un coup qui se réveille et qui retrouve la loyauté envers ce qu'il a décidé à choisir tel ou tel métier. Et c'est se poser la question de soi par rapport à au choix de vie, aux valeurs.
Pour pourrait parler de Yojimbo, donc si on peut dire presque le premier volet du diptyque Yojimbo Sanjuro, qui refuse de défendre gratuitement les villageois et pour autant finit tout de même par les défendre et débarrasser le village de ses bandits. Donc c'est presque un bienfaiteur malgré lui, le samouraï d'Akira Kurosawa.
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui fonctionne avec une ligne de conduite bien précise. On voit bien dans le cas de ces films, il ne veut pas aller dans le sens qui, pour finir, va être celui de l'histoire. Sa volonté, donc, elle est contrariée. Mais parce que voilà, la situation l'impose, parce que les villageois le lui demandent, eh bien, il va finir par accéder à leur désir. Donc on voit que, en définitive, c'est cet idéal qu'on retrouve souvent chez Kurosawa, du bon fonctionnaire. Une figure comme, on est loin là encore complètement du film de samouraï, mais comme Watanabe dans Vivre, là encore, ce n'est pas, alors que certains critiques ont pu le dire, l'idéal de l'individu moderne, libre, qui réalise les choses en fonction de sa propre volonté. En l'occurrence, c'est l'histoire d'un petit fonctionnaire qui, voyant sa vie arriver à son terme à cause d'un cancer, se décide à réaliser un petit parc pour enfants et donc à se lancer dans un projet qu'il avait enterré dans la paperasse au préalable. Là encore, en définitive, c'est quelqu'un qui répond à une demande de la société, donc il fait son travail de fonctionnaire de la manière la plus juste, efficace, désintéressée possible.
La façon de travailler de Kurosawa était que sur chaque tournage, sur chaque scène, c'était l'énergie, toute la force qu'il pouvait trouver en soi, il essayait de la mettre dans la scène.
Vittorio Dalleore.
Et c'est pour ça qu'il était... l'empereur parce qu'il se fâchait souvent et tout ça, mais c'est parce qu'il était... incroyablement exigeant avec soi-même pour pouvoir être exigeant avec tout le monde et réussir à avoir de ceux qui sortaient de l'écran toute l'énergie qu'il était capable de susciter. C'était 1983. Et Kurosawa était en train de préparer Ran. Il faisait les dessins pour les costumes et nous faisons les peintures des costumes, les décorations des armures. Et avec ça, tout le monde entrait dans l'idée du film et c'était pour lui aussi une façon de se concentrer et de mettre en clair ce qu'il voulait de son histoire.
Je me souviens d'une scène où il a fait répéter 15 fois à Nakadai « Ouvrez la porte ». Parce que d'abord, il le disait « Mon Akero ». Et alors, bon, il y a eu une telle pression que Nakadai se trompait de mot quelques fois. Et puis, il n'avait pas l'intonation qu'il fallait. Mais Kurosawa ne se mettait pas vraiment en colère. On le sentait terriblement tendu. Et d'ailleurs, Nakadai avait dit, quand il était jeune acteur, il a joué un rôle de figuration dans Les Sept Samouraïs. Il a dû passer, répéter 15 fois la scène pour passer une seconde à l'écran. Et il était jeune acteur, comédien, débutant, et il a dit « Je ne travaillerai plus jamais pour un réalisateur aussi exigeant. » Bon, après, il est entré dans les loyaux de Kurosawa, et il rigole lui-même de ce qu'il avait dit quand il était jeune.
« Yoï ! Aïe ! »
Il y a eu quelques fois où il arrivait sur le tournage, il se regardait autour, « Ah, tout est prêt, bon, on essaye, voilà. » Oui, c'est bien. On tourne. Yoï, start. OK. Et c'était fini. Alors, ça a arrivé une fois, puis ça a arrivé une autre fois. Et la seconde fois, il a appelé Koizumi-san, qui était notre chef des assistants. Il a dit, écoute-moi, je ne veux plus arriver... sur le set quand tout est prêt. Si vos assistants vous arrivez à 9h, moi je veux être là à 9h aussi. et alors évidemment, s'il arrivait à 9h, pour nous c'était d'arriver à 7h pour préparer les choses. Mais pour lui, c'était très important d'avoir le temps d'entrer dans l'esprit de la scène, préparer la scène avec tout le monde.
Là, vous venez de m'apporter une photo. Qu'est-ce que...
C'est la photo de le tournage de Rêve. Je jouais une lavandière. Rêve, c'est un film qui est composé de 8 épisodes, de 10 minutes chacun à peu près. Et dans le 5e épisode, ce sont des rêves que Kurosawa a effectivement fait au cours de sa vie. Et dans un rêve, il avait rencontré, quand il était jeune étudiant... aux Beaux-Arts.
Catherine Cadou.
À Tokyo, il avait rencontré Van Gogh en rêve. Donc il a mis en scène cette rencontre avec Van Gogh, Cézanne et Van Gogh. Il était fasciné par Van Gogh parce que Van Gogh est mort très jeune, je crois, 39 ans. Très très jeune. Et il a peint je ne sais plus combien de tableaux. Donc il a été fasciné par l'urgence et avec lequel Van Gogh a dû peindre. Et il en parle, c'est ce Van Gogh-là qu'il a mis en scène, qu'il a rencontré, et qui lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là, les bras ballants, il faut peindre, le soleil nous force, et c'est un peu les thèmes de Kurosawa, il faut peindre, il faut faire des choses, il faut créer.
Le rôle de Vincent Van Gogh a quand même été interprété par Martin Scorsese.
Kurosawa pensait que Van Gogh a peint comme un fou, comme un forcené dans cette très courte période de vie qu'il a eue. Et il a pensé à quelqu'un de très, très, très pressé. Et pour lui, la représentation de l'homme pressé, c'était Scorsese qu'il avait rencontré à plusieurs occasions, à Cannes en particulier. Et il avait un débit de paroles absolument incroyable. Et Kurosawa a très bien vu que c'était quelqu'un de très pressé. Et Scorsese est toujours un homme pressé. Enfin, à la fois très précis et très pressé.
A scene that looks like a painting does not make a painting. If you take the time and look closely, all of nature has its own beauty. And when that natural beauty is there, I just lose myself in it. And then, as if it's in a dream, the scene just paints itself for me. Yes, I consume this natural setting. I devour it completely and whole. And then when I'm through, the picture appears before me complete. But it's so difficult to hold it inside.
Then, what do you do?
I work, I slave, I drive myself like a locomotive.
voilà, c'est l'équipe rapprochée de Kurosawa. Il y a Kurosawa, il y a donc
qui est assis donc presque au centre de la photo. Mais c'est vous qui êtes au centre en fait. De...
Oui, c'est moi qui suis au centre. Mais moi, je suis dans ma tenue de la frontière.
Vous êtes assise à ses côtés.
Oui, derrière lui, moi, je suis à sa gauche et à sa droite, il a sa fille Kazuko,
costumière,
qui est costumière, qui a commencé à être costumière sur Ran d'ailleurs. En fait, sur Ran, comme j'étais là pendant 3 semaines, et puis j'avais déjà été sur le tournage pendant l'été, j'avais envie d'être, je vais être extra, enfin figurante sur le film, bien sûr avec un casque, je serais déguisée en guerrier, à cheval. C'était des scènes qui valaient des millions, donc je ne voulais pas prendre, même si je sais monter à cheval, je ne voulais pas prendre le risque de foutre en l'air une scène parce que je serais tombée de cheval et... Donc j'ai dit à Kurosawa, oh non, je renonce, c'est pas raisonnable et j'ai pas d'autre rôle pour moi là-dedans. Et je pense vraiment que, sans le savoir, enfin, j'avais semé une petite graine dans sa tête parce que il m'a toujours eu une lavandière. Alors j'ai dit à Chic, enfin un rôle de figuration. Donc on a fait un essai de caméra et puis il me dit, mais et le rire? Ben, je dis, ah bon, je savais pas qu'il fallait rire. Et en fait, j'ai compris qu'il voulait garder mon rire, parce que je ris assez souvent, c'est vrai. Et il voulait garder mon rire dans sa pellicule.
Bonjour. Savez-vous où habite M. Van Gogh?
Si c'est lui que vous cherchez, il a passé le pont tout à l'heure. Il est allé par là-bas.
Merci.
Monsieur, prenez garde. Il vient juste de sortir de l'asile des fous.
Et dans votre documentaire, dans le documentaire que vous avez réalisé sur Akira Kurosawa, qui s'appelle La Voix, vous parlez justement de ce film Rêve, et vous vous souvenez de ce que vous disait Akira Kurosawa à cette période, qui est que 80 ans, c'est l'âge de la liberté.
Ah ben là, dans Rêve, c'était un défi absolument incroyable, parce que c'était le... C'était un film en 8 épisodes. Chaque épisode était réalisé sans la moindre économie de moyens. C'est la première fois qu'il a utilisé des effets spéciaux. C'est un film, je crois, extraordinaire et très, très surprenant et très beau cadeau de 80 ans, la liberté.
Kurosawa avait des équipes énorme. Et c'était comme mener un combat, parce qu'il avait tant de gens à gérer, ça se voit très bien dans le documentaire de Chris Marker, Aka, où on voit vraiment qu'il y avait un nombre de figurants terribles. Et donc, il y avait des équipes énormes, et c'était un peu comme mener une guerre. Et il faut déployer son énergie, mais avec une intention, avec une compréhension du monde dans lequel on est.
Le kendo, on va commencer par l'étymologie. Ken, ça veut dire sabre en japonais, et do, c'est la voix. C'est la voix du sabre.
Alain-Nicolas Di Meo.
On attaque toujours face à face. On va toujours majoritairement vers l'avant, vers la confrontation, vers son partenaire. Et il ne faut jamais tourner le dos à son partenaire. Donc on se retourne toujours le plus rapidement possible pour toujours s'affronter face à face. Être le plus calme pour pouvoir analyser la situation correctement. Et voir les opportunités et les défauts qui sont chez l'adversaire ou le partenaire. Le sabre est extrêmement tranchant. Survivre à plus de 2 assauts était déjà exceptionnel.
Donc là, c'est le film Yojimbo. C'est vers la fin du film. Donc il a été fait prisonnier par les bandits. Il réussit à se libérer et il va se venger. C'est la scène de combat final.
Donc il fait face aux brigands. Et il évite les coups de... C'est un pistolet. Et il tranche au fur et à mesure, en une attaque à chaque fois, chaque brigand. Il avance. Le brigand s'enfuit, il est terrorisé. Et il lâche son sabre.
On sait déjà qui va gagner à ce moment-là pour vous ?
Suite au premier échange, scénaristiquement parlant, oui. Le samouraï a une attitude beaucoup plus digne, il avance, il ne bouge pas. Alors que le bandit prend des poses très ostentatoires, sans vraiment couper. Et on voit que la technique a parfaitement fonctionné. Il a été tranché. Sur l'attaque du brigand qui essayait de couper de haut en bas, le samouraï s'est décalé en arrière sur la droite pour le trancher au même moment que son attaque. Kesagiri, qui est la coupe diagonale qui part un peu au-dessus de la gorge et qui va couper le tronc de l'homme.
Le maître d'escrime qui venait enseigner à Kuroda s'appelait Magosaburo Ochiai, ou peut-être était-ce Matasaburi. De toute façon, c'était un nom typique d'escrimeur dont je n'arrive plus à me souvenir correctement. C'était un homme imposant d'une force exceptionnelle, et quand il faisait devant nous avec son assistant la démonstration de son style, sa puissance était impressionnante. Les élèves rassemblés pour le regarder en avaient tous le souffle coupé. Je croisais le sabre avec lui, dressant mon arme de bambou au-dessus de ma tête et criant « Omen », c'est-à-dire « au visage ». Mais au moment même où je chargeais, je sentis que je quittais le sol et mes pieds battaient l'air car Magosaburo Ochiai, d'un mouvement adroit de son bras musclé, m'avait soulevé à la hauteur de son épaule. Il m'avait pris complètement par surprise. Mon admiration pour ce maître d'escrime s'accrut de façon démesurée.
Ben c'est ça l'entrée de la résidence, non ? C'est de là qu'on a vu la projection. On est à l'entrée de la résidence du président de Pompidou, qui est l'appartement officiel du président, et dans lequel nous avons été conviés le soir de la présentation de Rannes, sur le parvis du centre Pompidou. C'était à l'automne 85, je ne me rappelle pas précisément de la date. Et ils ont pensé à cette projection. Donc on a déployé un écran géant devant le centre Pompidou. Il y avait un certain nombre de places réservées, mais il y avait surtout toute la foule parisienne qui avait le droit de venir voir ce film. Donc Kurosawa a fait un petit discours. Il était très très ému. Et moi aussi, j'arrivais pas à le traduire tellement, parce que c'était impressionnant, cette foule d'anonymes. Bon, il y avait des gens connus et des gens inconnus partout. Puis, c'était convenu que Kurosawa, après, était invité par le président du centre Pompidou, juste en face. Et Kurosawa s'est installé devant la fenêtre et a regardé son film du début jusqu'à la fin. Et donc, j'essayais de lui dire, Sensei, il faut...
Sensei,
ça veut dire le maître. Et je pense, je le dis pas très souvent, mais c'est tellement, tellement évident quand on parle à Kurosawa. Il avait tout d'un maître, quoi. Le maître n'est pas quelqu'un qui vous apprend quelque chose, il vous apprend à vivre, il vous apprend à regarder le monde. Et pour moi, c'était un grand maître.
Il faisait le montage, il ne parlait pas beaucoup parce que la concentration était vraiment énorme et la tension était incroyable. C'est lui-même qui faisait le montage, mais à la fin, quand on allait manger, il mangeait toujours avec nous, avec les collaborateurs. Il parlait tout le temps de ce qu'il faisait, ce qu'il pensait, ce qu'il voulait faire. Et c'était toujours, tous les jours, une école merveilleuse.
Il a une stratégie de tournage, c'est-à-dire qu'il devient stratège. Il devient stratège parce qu'il comprend exactement ce qu'il veut, ce qu'il cherche et ce qu'il attend d'un film. Du coup, il construit vraiment un style qui est comme ça orthogonal, qui est en angle droit. C'est-à-dire qu'on voit bien que, par exemple, dans un film comme Les Salauds dorment en paix, les trois caméras lui permettent de filmer au tout début du film une très longue cérémonie de mariage.
Nicolas Saada.
En lui permettant d'être tout le temps dans l'action, tout en restant complètement en dehors de cette action. Il est observateur, mais il essaie d'être le plus près possible de ce qu'il observe. Donc il est pas du tout un partisan d'employer la caméra à l'épaule, par exemple.
Ça a une influence sur le jeu de ces acteurs qui ne voient plus vraiment par quelle caméra ils sont filmés.
Oui, je pense que ça lui permet justement de libérer les acteurs du regard de la caméra et d'introduire quelque chose qui est très très nouveau. C'est pour cela que des cinéastes comme Coppola ou Scorsese se réclame de Kurosawa, parce qu'il y a un moment donné où il met au point vraiment une méthodologie de tournage qui est très surprenante.
Nakada, il raconte très bien la scène où le château brûle, où il est tout seul dans le château, et il est vraiment resté tout seul, parce que là, le château brûlait vraiment. Et il devait attendre le signal avec les oreillettes pour sortir du château. Et il voyait le château qui s'effondrait tout autour de lui, il était vraiment tout seul. Et il attendait. Et il savait qu'il n'était pas question de sortir avant le signal. Parce que le château, une fois qu'il était brûlé, on ne pouvait pas le reprendre. Je crois qu'il a perdu 1,2 kg de frayeur en attendant le signal pour pouvoir sortir du château. Tout était très, 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 très calculé. Tout était bien fait. Et il n'y a effectivement pas eu de drame. Mais ça, c'est l'exigence. Il va jusqu'au bout de son rêve d'image.
La nuit avant le tournage, ni Mifune ni l'actrice qui joue l'infirmière, Noriko Sengoku, ne purent fermer l'œil. Moi non plus, car j'éprouvais un sentiment comparable à celui qu'on peut ressentir à la veille d'une bataille décisive. Le lendemain, au moment de lancer la caméra, une atmosphère tendue régnait sur le plateau. L'interprétation de Mifune et de Sengoku traduisait un conflit intérieur crucial. À mesure que les secondes s'écoulaient, leur jeu atteignait un degré d'intensité insupportable et les étincelles fusaient comme d'un feu d'artifice. Je pouvais sentir la transpiration se former dans mes poings crispés. À la fin, quand la détresse qu'il vient de confesser à la fille fait éclater Mifune en sanglots, j'entendis les projecteurs tout près de moi se mettre à faire un bruit de tremblement. Je me rendis compte tout de suite que c'était moi qui tremblais. Les spasmes d'émotion qui me passaient par le corps se communiquaient aux projecteurs près desquels je me tenais. Croisant fermement mes bras pour essayer de contrôler mon tremblement, je regardais vers la caméra et là, je faillis sursauter. Mon caméraman, qui regardait à travers le viseur et qui maniait la caméra, pleurait comme un enfant. Mon cœur se mit à battre. Les larmes du caméraman attestaient clairement la qualité d'émotion du jeu de Mifune et de Sengoku. Mais si le travail de la caméra était bousillé parce que les acteurs réussissaient à faire pleurer l'opérateur, cela ne servirait à rien.
Le 6 septembre 1998. Et moi, je savais qu'il était malade et je ne m'attendais pas qu'il allait mourir quand même. Mais c'était évidemment un grand douleur pour moi. Et je suis parti au Japon pour les funérailles. Et c'était une chose très, très émouvante parce qu'on a préparé au studio de Kurosawa à Yokohama. Il y avait une grande photo, il y avait les musiques de ses films, et il y avait ses fans qui venaient pour lui rendre hommage. Et au Japon, il y a on donne quelque chose, un petit peu d'argent pour aider la famille. Quand il y a quelqu'un qui meurt, et il y a eu, je crois, 10 000 personnes qui sont venues au studio pour lui rendre hommage. Et chacun lui donnait le prix d'un ticket de cinéma.
Je me souviens d'une boutade, une fois, il y avait une journaliste française, dont je ne me souviens pas du nom, qui lui a dit « qu'est-ce que c'est que le cinéma ?» Et lui avait dit « je me demande si c'est pas ce qui se passe entre une scène et une autre scène, entre un plan et un autre plan. C'est ce qui se passe dans ces interstices-là. Ce serait peut-être ça, le cinéma. » Je sais qu'il m'a fait un beau cadeau. Quand j'ai traduit ça, j'étais très contente parce que je pense que je regarde souvent le cinéma comme ça maintenant.
Je veux juste faire des films, de beaux films. Je poursuis cet unique but depuis presque une cinquantaine d'années. Je voudrais que tout le monde savoure la beauté du cinéma. Ce que je recherche, ou plutôt ce que j'espère, c'est de faire un très beau film. Je voudrais transmettre mes pensées aux spectateurs de la manière la plus naturelle. Un film projeté sur un écran permet aux gens à travers le monde de partager leur bonheur et leur tristesse avec les personnages du film. Et en ce sens, un film permet aux gens de se comprendre. Si les gens du monde entier peuvent apprécier ensemble la beauté d'un film, alors ils peuvent se comprendre, et c'est ce genre de film que je veux faire. C'est là tout mon but. Et cela n'a rien à voir avec le fait de transmettre tel ou tel message.
Il le disait tout le temps que le moment plus beau de sa vie est toujours quand il est sur le tournage. Et son rêve était de mourir sur le tournage d'un film. Qui évidemment, ce n'était pas le rêve de ses producteurs, mais... mais... c'était son rêve.
Akira Kurosawa, 1910-1998, L'autre samouraï. Un documentaire d'Émilie Chaudet. Avec le cinéaste Nicolas Saada, le programmateur cinéma de la Maison de la Culture du Japon à Paris, Fabrice Arduini, la professeure de philosophie de l'art, Clélia Zernik, la traductrice et interprète, Catherine Cadou, l'historien, Michael Lucken, l'ancien assistant réalisateur, Vittorio Dall'Eore, et le professeur de kendo, Alain-Nicolas Di Meo. Merci à Yoshinori Inoue du club de kendo Kenyu, à Anne-Dominique Toussaint et à Emeline Chetara de la Galerie d'Art Cinéma, ainsi qu'à Hélène Lefebvre du Musée Guimet à Paris. Extrait de Comme une autobiographie d'Akira Kurosawa, traduit par Michel Chion aux éditions des Cahiers du Cinéma, lu par Vincent Schmitt. Prise de son Yves Lehorse, Éric Damadio, Jean-Pierre Pernel et Stéphane Poitvin. Mixage Cédric Chatelus. Réalisation, Ghislaine David.
C'était Une vie, une œuvre, une émission proposée par Perrine Kervran avec Claire Poinsignon. Bibliographie et liens, réécoute, podcast et commentaires, c'est sur la page de l'émission, sur le site de France Culture. Retrouvez-nous aussi sur Facebook et Twitter. Et la semaine prochaine, nous serons avec celle qui était entre la France et l'Algérie, à Siadjebar.